Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 101.7, 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Philippe Krebs et Julien Rivollet. Bonjour à tous les deux.
Salut Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Vous travaillez au Greta, le Greta Viva 5, et plus particulièrement sur cette formation travail sur corde, dont Philippe, tu es le responsable, Julien, référent technique. Parlez-nous un petit peu de cette formation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Et peut-être un mot sur le Greta aussi.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Greta s'appelait Greta Viva 5. Aujourd'hui, il y a une fusion faite de tous les Greta. Maintenant, ça s'appelle Greta Ardèche Drôme. Donc, ça a fusionné, on va dire, tous les Greta de la région ont fusionné en un ensemble un peu plus grand. Sur la formation, donc, nous, on est vraiment en charge de la section Travaux sur Corde, donc, qui forme au métier de cordiste et qui existe depuis 24 ans. En fait, c'est la plus vieille certification en France. Donc, il y a la certification aujourd'hui qui s'appelle le CATS, dont le certificateur, c'est le Greta, là, et actuellement, il est en cours de renouvellement. Et il y a une autre certification qu'on fait passer aussi, c'est ce qu'on appelle les CQP, qui sont des certificats de qualification de branche, qui sont un peu, on peut dire, le permis de conduire pour exercer le métier de cordiste. C'est une certification qui a plusieurs niveaux, qui a trois niveaux. Nous, on fait passer les deux premiers. Et au Greta ADI, on a la spécificité, de faire passer des formations longues, c'est-à-dire que les cordistes viennent chez nous et on a une aventure ensemble pendant un an, un petit peu plus d'un an, ce qui veut dire qu'on fait de l'alternance, des contrats de professionnalisation et les techniciens, donc au niveau de l'âge, ça va de 17 ans à 47 à peu près, pour les plus anciens qu'on a eus, et ils sont avec nous en formation toute l'année. Ils commencent par d'abord passer le permis de conduire de niveau 1. Ensuite, ils arrivent en entreprise pendant 8 semaines. Ils reviennent au centre de formation. Ils font 4 semaines de modules métiers, de techniques de corde. Je reviendrai un peu dessus après. Ils repartent en entreprise. Ils reviennent faire des pendant 4 semaines au centre de formation. Donc, c'est un peu cette alternance-là pendant un an. Et puis, à l'issue de cette année, ils passent le niveau 2. Ils deviennent techniciens cordistes confirmés, donc des cordistes expérimentés.
Ces cordistes viennent forcément d'une entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés par leur entreprise pour monter en niveau, ou alors il faut trouver son entreprise une fois qu'on espère à accéder à cette formation?
En fait, ce qui se passe, c'est que pour accéder à cette formation, il y a une journée de positionnement, on va faire un peu des tests écrits, oraux, un entretien professionnel pour définir un peu le projet de chacun. Et il y a aussi un petit test pratique pour notamment vérifier l'appréhension par rapport à la hauteur. On fait un petit parcours, soit on a une structure, on a un plateau technique à 10 qui est assez conséquent, avec une structure qui s'appelle le Mammouth.
Bien visible.
Bien visible.
Tout le monde la connaît, quoi.
Exactement. C'est un peu une cathédrale en bois, c'est un peu un monument qui est assez connu dans le milieu de la corde. Et donc, ils font ce petit test pratique. Et une fois qu'ils ont été positionnés et puis validés, on les met en relation. Nous, on a beaucoup d'entreprises partenaires. Ça fait quand même 24 ans qu'on travaille avec des entreprises. Et on essaye au mieux de répondre aux besoins des entreprises. Et là, aujourd'hui, on a refait la formation longue. C'est-à-dire que dans les modules métiers qui vont passer, historiquement, il y a de la zingrie, de la maçonnerie, un module sur du GSM, des choses comme ça. Puis on a rajouté, il y a un module spectacle maintenant, sur tout ce qui est technique d'accroche dans le milieu du spectacle. On a rajouté un module de soudure, on a rajouté des choses comme du secours sur corde en équipe, des notions sur la supervision, comment on fait pour encadrer une équipe de techniciens cordistes en chantier, etc., etc.
Tu pourrais peut-être nous dire aussi qu'est-ce que ça a apporté, la fusion entre tous les Greta? Est-ce que c'est quelque chose qui était utile, nécessaire?
C'est une bonne question. Après, c'est l'évolution des Greta. Après, c'est des décisions politiques qui se passent à un autre niveau. Mais j'aurais tendance à dire que l'union fait la force. Et puis, ça donne forcément plus de visibilité. Nous, ça nous permet, sur les formations de modules soudure, nous, on a un plateau technique au Greta ADI, où on forme au titre professionnel de couvreur-zingueur, d'électricien, etc. Et il se trouve que le plateau technique sur la soudure se trouve à Chomérac. Donc ça permet d'encore mieux affiner les partenariats et puis la force du Greta, qui est quand même un regroupement d'établissements à l'échelle nationale. Il y en a partout en France. Donc c'est vrai qu'on bénéficie aussi de cette force-là, la force institutionnelle, on pourrait dire.
Allez, vous êtes deux quand même dans ce studio, Julien, Philippe. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler un peu de vos travaux spécifiques? Qu'est-ce que vous êtes? Quel parcours vous avez eu pour être ce que vous faites aujourd'hui? Julien, par exemple.
Donc, moi, j'ai commencé ici même, il y a un peu plus de 10 ans, en me formant au CATS. Ce qui m'a permis, donc après 8 mois de formation, d'être certifié, d'aller faire mes armes sur différents chantiers en France.
Par exemple,
des travaux en maçonnerie sur Paris ou la région parisienne. Par exemple, du nettoyage de silos dans le Grand Ouest, on dira. Par exemple, des montages de mâts de mesure de vent pour les parcs éoliens dans le centre de la France ou dans le sud. Et puis, j'ai assez rapidement pu embaucher dans une entreprise travailler dans le milieu industriel beaucoup, donc tout ce qui est par exemple les pylônes, les ponts, les barrages, les conduites forcées, divers bâtiments d'industrie un peu plus lourde, pétrochimique, nucléaire, pour tout ce qui est des accès dits difficiles, hein, un peu complexes, souvent en hauteur, parfois en profondeur, dans des puits par exemple. Et après 5 à 6 ans d'activité, j'ai commencé une activité de formateur, justement sur ces titres, cordiste, technicien cordiste, dans d'autres référentiels également internationaux. Et aujourd'hui, donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu intégrer l'équipe du Greta, revenir à la source, si je puis dire, en passant de l'autre côté du bureau, pour du coup avoir des stagiaires sous mes conseils les plus bienveillants possibles et les amener à la réussite de leur examen.
Philippe, ton parcours?
Alors mon parcours, moi j'ai un peu dérapé parce qu'au départ je viens du milieu de la culture, j'ai un DEA de lettres modernes, j'ai une maison d'édition alternative pendant 10 ans. Et puis il se trouve que quand j'ai su que j'allais être papa, je me suis dit que j'allais peut-être faire un métier un peu rémunérateur pour remplir mon frigo. Et j'avais passé ma certification à l'époque dans le sud à Cavaillon en 2004. Et puis comme Julien, après cette maturation qui se fait un peu au fil de l'eau, j'ai passé les niveaux supérieurs où je suis arrivé en CQP2, CQP3. Ensuite je suis passé sur certification internationale, j'ai passé le CATS, etc. Et aussi au bout de 10 ans de chantier où j'ai travaillé un peu dans toute la France pour une trentaine d'entreprises différentes. J'avais habité à Paris, j'habitais à Lyon, j'ai vraiment travaillé un peu partout en France. Et j'ai basculé du côté formateur, parce qu'à un moment donné, on fait des choses en chantier, on accumule un peu d'expérience, un peu d'âge aussi, et on se retrouve naturellement dans l'envie en fait, de passation, de transmettre aussi. Ça se fait de manière un peu naturelle, ça se fait déjà en chantier, avec des personnes plus jeunes. Et après, on devient formateur professionnel, entre guillemets, où j'ai fait ça pendant 7 ans. Voilà. Et puis après, j'ai repris à la suite de l'équipe, du Greta, l'équipe de travaux sur corde qui est partie à la retraite pour la plupart. Il reste encore une personne, Philippe Rondel, qui est encore avec nous. C'est le dernier des Mohicans et puis on est content de l'avoir. Mais j'ai pris la relève. Historiquement, c'était Franck Arnal qui gérait en fait la coordination des travaux sur corde au Greta. Et nous, on a la nouvelle génération, Julien et moi et d'autres. On prend le relais, le flambeau, on est content. Ils nous ont laissé un héritage assez gigantesque, magnifique, avec un plateau technique assez incroyable, clairement. Et puis une réputation, une aura quand même du CATS et du Greta qui auprès des entreprises, est vraiment intéressante à travailler. Donc nous, on est dans leur pas et on a remodernisé un petit peu cette formation-là. On la calant sur les standards actuels en faisant un peu du syncrétisme. Syncrétisme, c'est un mélange, on va dire, par exemple, de différentes religions. Nous, on a essayé de faire un peu une vision syncrétique des travaux sur corde. Comme on maîtrise les référentiels des CQP, de l'IRATA qui est la certification internationale et le CATS, on a ouvert un peu l'esprit et puis on a un peu voyagé aussi. On a eu la chance de travailler un peu à l'étranger, donc voir un peu ce qui se passe ailleurs pour le ramener ici et puis en faire un standard moderne, on va dire.
On va détailler un peu CATS, CQP, tout ça, parce que ça, je pense que ça embrouille tout le monde. Mais il y a quand même une constante, j'ai l'impression, au travail de cordiste, c'est que vous bougez quand même beaucoup. C'est assez paradoxal, Philippe, tu nous dis « j'ai un enfant, il faut que je fasse rentrer de la thune », mais tu l'as vu quand avant de devenir formateur?
J'ai fait 10 ans d'intérim, donc du coup je m'étais organisé avec la mère de mes enfants de manière à ne pas travailler tout le temps.
Ouais. Voilà. Oui, non, mais je ne voulais pas qu'on rentre vraiment dans le détail de ta vie, mais en tout cas cette constante au voyage, j'ai un peu envie de dire, c'est-à-dire que vous bougez en permanence sur des domaines très très différents. voilà, on a entendu un silo, une plateforme pétrolière, je ne sais pas, un pont. C'est jamais au même endroit, quoi. Il y a un peu ce côté découverte tout le temps d'une nouvelle manière d'être suspendu.
Effectivement, hormis vraiment pour les personnes qui travaillent sur les grandes métropoles, donc les grandes villes en France, on a l'Île-de-France, on a la région de Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Grosso modo, les cordistes sont vraiment amenés à être en déplacement. C'est un paramètre à intégrer clairement dès l'entrée en formation, je dirais, parce qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est une contrainte, clairement. Il faut organiser les déplacements. Ça veut dire parfois partir le dimanche au niveau pratico-pratique, rentrer tard, des fois ne pas rentrer le week-end ou plusieurs week-ends. Donc c'est bien sûr à prendre en compte parce que tout le monde n'est pas satisfait de cette vie-là. Après, c'est aussi une chance de voir du pays, de voir différentes cultures, pourquoi pas, ne serait-ce qu'en restant en France, mais si on a la chance de partir à l'étranger, on peut voir vraiment beaucoup de pays. C'est sûr que c'est difficile à conjuguer avec une vie familiale. Il faut clairement bien s'organiser ou après réussir à trouver des postes dans des entreprises où on aura peut-être moins de déplacements. Certaines régions, comme ici, hein, en l'occurrence, c'est pas pour rien que le Greta a construit son aura ici, c'est que c'est un endroit stratégique relativement central. On est aux portes des Alpes, on est en proximité directe avec la vallée du Rhône, donc il y a quand même un gros bassin d'emploi, de travail, je dirais, assez rapidement accessible sur toute cette région-là de Rhône-Alpes.
Et puis il y a le Vercors qui passe son temps à s'écrouler, c'est quand même... une belle source de travail, ça.
Ah, y a des travaux infinis, oui, pour les cordistes qui se spécifieraient dans ce qu'on appelle les risques naturels, ouais, le confortement de falaise, par exemple. Effectivement, c'est des travaux qui n'auront jamais de fin, parce que même si les ouvrages sont en place, il faudra les entretenir, les renouveler. Donc, il y a du travail. Ouais.
Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce mammouth et de votre plateau technique, parce que vous l'avez cité plusieurs fois. Comment vous auriez envie de le présenter? Et puis, ça rejoint un peu aussi la réputation qu'a ce Greta pour faire partie quand même des meilleurs formateurs au CATS, notamment. Je pense que la réputation, elle est aussi internationale là-dessus. Philippe, peut-être?
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une cathédrale de bois. C'est un énorme... C'est une structure, c'est un plateau technique qui fait
18 mètres
de haut, qui est vraiment massif, costaud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment 2000 cordistes qui ont fait leur gamme sur cette structure-là. Donc c'est dans ça aussi que c'est presque un rite de passage.
Qu'est-ce qu'on y fait dessus?
On fait de l'évolution, donc on va apprendre à installer ses cordes, à les amarrer, à progresser sur ses cordes en trois dimensions. D'abord, on monte de manière assez simple, de haut en bas, et puis à un moment donné, on évolue au niveau technique et on va se déplacer en trois dimensions, de gauche à droite. On va apprendre à faire des secours aussi, parce que quand on est en suspension sur corde, en cas de malaise ou de problème, on n'a pas une espérance de vie très longue. Il faut agir, c'est comme dans diplôme sauveteurs secouriste du travail, on dit 3 minutes pour agir sur corde. C'est très important d'être en relation avec les gens qui travaillent avec nous, de manière à pouvoir être secouru justement dans un délai suffisant.
C'est parce qu'il y a un effet de garrotage, c'est ça, dans les baudriers, on est un peu contre.
Non, c'est pas
comprimé.
Exactement ça.
C'est plus une contrainte, a priori, les études les plus récentes ont un peu abandonné cette idée de garrotage. Ouais, les sangles aujourd'hui dernier sont suffisamment larges pour ne pas vraiment avoir un effet de garrot. C'est plus une contrainte sur le thorax et donc la fonction respiratoire et après par déclinaison cardiaque qui génère en fait une syncope assez rapidement si on est inerte en suspension, notamment dans un harnais. Mais situation qu'on peut retrouver dans d'autres situations en suspension. Si on est à plat ventre sur une poutre, les bras ballants, ça ne sera pas une situation tolérable très longtemps. A priori, oui, il y a des risques ou des chances ou des risques que le même effet s'en produise. Ouais. Donc effectivement, ouais, le paramètre gestion, anticipation des évacuations et des secours est très important.
Et ça, donc, tous les cordistes sont amenés de toute façon, puisqu'on travaille souvent, rarement seul, à avoir des collègues et donc à devoir agir, sinon c'est dans l'assistance à personne en danger, en fait, c'est ça?
C'est ça, ouais, c'est une obligation effectivement réglementaire. Le cordiste, il est interdit de travailler seul, il travaille toujours à minima à deux, de manière justement à pouvoir porter secours à son collègue, à son binôme. Ça, c'est vraiment le béaba, quoi. Ça, c'est la chose avec laquelle on ne peut pas transiger, c'est sûr. Mm-hmm.
Et après, du coup, vous le réparez, ce mammouth, en direct? Vous en faites quelque chose pour, pour tâter de, la, je sais pas, de l'outil en suspension, ce genre de choses?
On va dire que le mammouth, c'est un peu le premier échelon, quoi, le premier barreau de l'échelle sur lequel on va faire nos premières gammes. Dès qu'on gagne un petit peu en autonomie, on a la chance d'être dans le pays d'Iwa avec un plateau technique assez conséquent. Donc sur la structure de Di au Greta, on a ce fameux mammouth. On a une structure qu'on appelle la girafe, qui est plus une structure type industrielle. Et puis, on a un pylône aussi sur lequel on fait des entraînements au GSM, des choses comme ça. Et à côté de ça, on a un plateau technique assez incroyable parce qu'on a plusieurs silos. On a un silo à créer, on a un silo à dire. En partenariat, on a une convention avec la coopérative de Romoise. On les remercie d'ailleurs infiniment de mettre à disposition ces plateaux techniques. Et puis après, bon, il y a tous les sites naturels qu'il y a ici, du Claps, Espenel, il y en a partout, il y a des falaises, la montagne un peu partout. À côté de ça, on va travailler aussi sur des structures type, à l'époque on allait sur la cathédrale de Die, on va sur la tour de Cré aussi, avec qui on a un beau partenariat. On peut aussi remercier les gens de la régie de nous ouvrir leurs lieux. Donc on a beaucoup beaucoup d'endroits, on a des endroits aussi, il y a un collège alternatif à Alex qui est un château sur lequel aussi on va faire c'est plus ce qu'on appelle des chantiers d'application. Une fois qu'ils ont fait leur gamme et qu'ils ont appris, que les stagiaires sont passés par les modules métiers, on les envoie là-bas travailler justement de la maçonnerie, faire de la zingrie, de l'ardoise. Donc on a vraiment un panel, on va dire, assez incroyable, qu'on n'arrive même pas à tout exploiter tellement il est grand. Ça, c'est l'héritage des anciennes, ils ont laissé un beau plateau.
Voilà, donc ça, c'est pour donner envie. Et alors maintenant, on rentre dans le dur, la formation.
Oui.
Rappelez-nous, CQP, CATS, qu'est-ce que c'est la différence? CATS étant finalement le final, quoi, le Saint Graal peut-être, comme on dit. Et puis, tous les modules, précisément, vous, qu'est-ce que vous proposez? Et puis, quand on doit se déplacer, j'entendais, pour faire de la soudure ailleurs, c'est pas grave, on peut quand même prendre ces modules-là.
Aujourd'hui, en France, il existe donc différentes certifications, donc CQP, certification de qualification professionnelle. Pour ce qui concerne les travaux sur corde, on a donc le CQP cordiste, qui est le niveau 1, comme Philippe disait, le permis de conduire, pour pouvoir se déplacer sur corde sous encadrement, encadré par une personne plus expérimentée et qui est compétente pour cela.
On peut déjà travailler avec ça?
On peut travailler, tout à fait. Oui, c'est un peu le niveau de base pour travailler en France. La plupart des entreprises demandent ce niveau-là pour les techniciens, pour embaucher les techniciens. On a ensuite le CQP technicien cordiste qui doit déjà avoir passé son CQP cordiste, avoir fait un petit peu de chantier, quelques mois ou quelques années de chantier, pour avoir un peu d'expérience et être en capacité, devant un jury lors de l'examen CQP technicien cordiste, donc de soutenir à l'oral un mémoire qu'il a produit, un rapport d'activité. Voilà. Donc sur les chantiers qu'il a réalisés, avoir un esprit, une analyse critique surtout, c'est ce qui va être demandé en fait sur, comment je ferais les choses si je devais refaire le chantier que je présente, et comment je referais les choses de manière optimisée.
Ce qui permet quoi du coup ça,
ce deuxième niveau, donc c'est une reconnaissance d'autonomie en fait, dans notamment les déplacements, les équipements de cordes. Alors pas d'autonomie complète, l'employeur a toujours à sa charge d'indiquer les points d'ancrage, de réaliser une analyse des risques, de définir les modes opératoires, comment on va procéder pour accéder, travailler, après réaliser le travail une fois qu'on est au poste de travail. Mais du coup ce CQP technicien cordiste, le niveau 2, permet la capacité d'interpréter en fait toutes ces consignes que l'employeur va transmettre et de les mettre en application. Le CATS, je vais peut-être laisser Philippe en parler, il est en cours de renouvellement, donc je ne sais pas à quel point il est possible de s'étaler sur le référentiel.
Donc il y a deux CQP, hein, on est d'accord?
Il y a deux CQP et après...
On passe au CATS.
En fait, pour les CQP, ils sont portés par... ce qu'on appelle, c'est le syndicat patronal, on va dire, qui a créé cette certification. Donc aujourd'hui, ça s'appelle France Travaux sur Corde, qui est porteur de la certification. La spécificité au Greta, c'est que nous aussi, on est porteur d'une certification. Actuellement, c'est en cours de renouvellement auprès de France Compétences, hein, qui est l'organisme validateur. Là, c'est vraiment une histoire de semaines, c'est en train de passer. Et à partir du moment où c'est renouvelé, nous, on leur fait passer d'abord le CQP1, qui est le niveau 1, mais après, on fait passer le CATS, qui est... notre propre certification et il y a une équivalence entre le CQPTC et le CATS qui avait été validé justement entre le GRETA et puis la branche professionnelle patronale. Voilà. Après, on l'a remodernisé et tout. On en parlera quand il sera sorti avec quelques nouveautés. Et voilà, donc ça, c'est les certifications. Après, il existe une autre certification à l'international qui s'appelle l'IRATA. Donc ça, c'est pour les permis de conduire à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés de compétences qui permettent d'exercer la profession de cordiste en France, mais qui est essentiellement axé sur la technique, les installations, le secours, des connaissances aussi théoriques, des réalités un peu physiques auxquelles on est soumise quand on se met en position, en situation de travaux sur corde. Et à côté de ça, il faut quand même savoir, donc ça c'est la partie corde, accès, mais quand on va bosser justement sur chantier, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'installer des cordes, c'est bien, c'est comme installer une échelle un peu savante, mais après il faut se servir de ses 10 doigts pour exercer un métier différent. Donc c'est pour ça moi j'ai tendance à dire toujours que c'est un métier au carré, c'est un métier avec des particularités cordes qui viennent se conjuguer, qui viennent s'additionner, se multiplier à d'autres compétences métiers, et c'est pour ça que les entreprises, elles, souvent, elles recherchent des personnes qui ont des doubles compétences, doubles casquettes, comme cordiste zingueur, cordiste soudeur, cordiste maçon, cordiste que sais-je, électricien. Et parce qu'il faut quand même savoir que c'est un métier qui est transversal. Potentiellement, je crois qu'il n'y a pas d'endroits, de métiers, ou dès qu'il y a de la hauteur où le cordiste ne va pas. On peut être amené sur des éoliennes, en milieu industriel, en confiné, il y a des cordistes, sur des bateaux, il y a des cordistes, sur les montagnes, il y a des cordistes, sur les clochers, il y a des cordistes. Les cordistes, il y en a un peu partout. Voilà. Mais après, les cordistes, c'est impératif qu'ils sachent, comme on peut dire, avoir des aptitudes manuelles. Et c'est ce qu'on nous, on enseigne au GRETA, justement, sur les formations longues, ce qui permet justement à quelqu'un qui voudrait s'orienter vers ce métier-là de ne pas avoir dans sa caisse à outils que le bagage corde, mais qui a déjà un bagage métier. Et c'est là où on fait des modules, justement, sur le spectacle pour les personnes qui sont intéressées par un peu le milieu du spectacle, le rigging, les accroches, ou comment on fait pour sécuriser des techniciens, des danseurs, des danseuses, etc. On a une partie, un module qui est sur la maçonnerie. Donc ça, c'est surtout, ça touche beaucoup toute la partie bâtiment dans toutes les régions de France où c'est de la reprise de cheminée, de la reprise de balcon, que sais-je encore, refaire des enduits, etc. On a une partie, ils ont une habilitation électrique, ils ont une formation à l'échafaudage, ils ont une formation à la soudure à l'arc, ils ont une formation sur le GSM pour comment on fait pour installer une antenne, faire des réglages d'antenne, de coax, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a tellement des formations. Il y a une formation pour devenir vérificateur EPI, comment on fait pour contrôler notre matériel. Il y a des formations pour faire du lavage de vitres. Voilà, on a tout un panel comme ça au fil de l'eau pendant un an où les techniciens vont apprendre à faire des choses de leurs 10 doigts. Et à l'issue de ça, ils vont développer, on va leur délivrer ce qu'on appelle un portefeuille de compétences métiers dans lequel ils peuvent justifier de ces aptitudes-là parce qu'ils sont aussi évalués en formation là-dessus. Ils peuvent le justifier auprès d'un employeur, voilà.
Donc on peut passer plusieurs modules, l'intérêt c'est d'en passer un maximum finalement.
En tout cas d'être formé après il y a des cordistes qui vont se spécialiser dans une discipline, mais il y a aussi des cordistes qui sont un peu tout terrain, qui sont amenés à exercer différentes professions. Ouais.
Ouais. C'est quoi le travail cordiste le plus dur? J'allais dire le plus rémunérateur, tiens. Est-ce que le plus dur est le plus rémunérateur selon vous?
Non, c'est l'inverse. Le plus dur, c'est le confiné, je dirais, j'aurais tendance à dire.
Alors, c'est quoi ça?
Tout dépend de ce qu'on, de ce qu'on appelle dur, difficile.
Dur, je ne sais pas, moi, la condition extrême, où il fait trop chaud ou trop froid, sans lumière.
On peut trouver pas mal de postes de travail qui ne sont pas prévus pour l'être, où accèdent les cordistes, justement. Effectivement, en termes de difficultés physiques, il apparaît que les cordistes qui travaillent ce qu'on appelle le risque naturel, ou le TP, on parle de travaux publics, on parle de travaux publics quand on parle de cette branche-là, sont des gens qui sont sur les falaises pour conforter les falaises, par exemple, ça va être sceller des ancrages pour tenir la roche qui serait faillée, éviter qu'elle ne s'écroule sur des routes ou sur des bâtiments, ça va être poser des barrières pour retenir les roches et qui peuvent tomber, poser des grillages plaqués pour empêcher les roches de tomber. Ça, c'est des travaux qui vont demander une condition physique assez importante parce qu'on a souvent du matériel assez lourd à transporter.
Un gros perfo qui pendouille, là. Ouais.
Alors là, c'est plus que du perfo à la main, c'est du pneumatique, voire parfois de l'hydraulique. Mais là, on est sur des machines qui sont de plus en plus mécanisées, parfois, quand c'est accessible avec des bras de déport depuis une route ou depuis le haut de la falaise. Mais effectivement, ça demande quand même une grosse condition physique. Là, c'est en extérieur, donc on est aussi directement exposé aux aléas climatiques, si je puis dire. Le froid en hiver, on pense à eux aujourd'hui dans une journée fraîche et pluvieuse. Le chaud en été, où on peut être exposé directement au soleil sans ombre. Donc c'est clairement des conditions assez difficiles, assez traumatisantes pour le corps. On va retrouver pas mal de troubles musculo-squelettiques associés à ces métiers. Les canals carpiens, par exemple, pour tout ce qui est donc au niveau du poignet, le traumatisme dû aux vibrations notamment, des machines qui, de forage. Comme autre domaine d'activité assez dur, on va également parler, comme disait Philippe, des espaces confinés, où là, on est dans des milieux qui ne sont absolument pas prévus pour être des postes de travail. Hein. C'est la définition même d'un espace confiné, un espace clos qui n'est pas prévu pour être un poste de travail. En tout cas, pas à long terme ou pas en permanence du tout. Donc là, on va avoir de la chaleur, on va avoir des grosses complexités d'évacuation et de secours, que ce soit vers le haut, vers le bas, s'il y a des petites trappes à franchir. Donc c'est très générateur de stress, potentiellement. On a aussi le bruit qu'on peut générer par les outils, par le travail, ou rien qu'en communiquant, ça résonne, si c'est des espaces, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs. Ça peut résonner, un problème, on est dans l'obscurité, on peut avoir aussi des chaleurs importantes, hein, souvent, si on pense à des cimenteries ou des cuves qui peuvent stocker des produits chauds. Même si elles sont consignées, arrêtées depuis quelques jours, l'inertie est souvent importante et il fait très très chaud. Potentiellement. Puis on peut y faire des travaux en reparlant des cimenteries que je connais assez bien, où on va par exemple faire tomber des concrétions de matière instable qui sont assez physiques aussi parfois. Il faut taper dégager un silo qui aurait durci du sucre, du ciment, que sais-je, au fond qui aurait durci, il faut piocher dur. Donc c'est des travaux qui sont plutôt physiques, contraignants, stressants parfois. Voire souvent. Pour ce qui est des plus rémunérateurs, malheureusement, ce n'est pas ces deux branches-là qui sont reconnues pour être les plus rémunératrices. Il semblerait, moi, de mes 10-12 ans d'expérience, que le plus rémunérateur se trouve plutôt en industrie, chez les métiers qui demandent une compétence, une double compétence vraiment accrue, notamment les contrôleurs, les gens qui font du contrôle de structure, contrôle de soudure, contrôle de mesure d'épaisseur d'acier, par exemple. Il y a des qualifications qui coûtent très cher, on parle de plusieurs milliers d'euros, pour pouvoir être apte à faire ces contrôles-là et surtout à, par exemple, établir un procès-verbal de l'inspection, où là, du coup, la rareté de ces postes de travail, de ces qualifications, fait que le salaire est plutôt intéressant. Tout le monde n'a pas forcément envie également de faire ces... Je ne dis pas ça pour décourager ceux qui voudraient s'y intéresser, mais voilà, il faut être en capacité de produire également des rapports d'inspection qui peuvent être longs, des fois plus longs que le travail lui-même d'inspection. Donc c'est aussi le travail de bureau. Et puis il faut être à l'aise avec le milieu industriel qui peut avoir des contraintes que tout le monde n'apprécie pas forcément. Que ce soit en termes de rigueur sur la formalisation des moyens de prévention, que ce soit en termes de risques présents sur site, hein, risques chimiques parfois, risques radioactifs hein, sur les sites nucléaires par exemple. Tout le monde n'a pas forcément envie de s'exposer à ces risques-là, même s'ils sont maîtrisés. Voilà, ça, c'est des contraintes spécifiques.
Merci pour tout ça. Au moins, on comprend vraiment mieux ce qui se passe éventuellement si on veut travailler en Cordis. J'imagine qu'il y a quand même aussi des endroits qui sont absolument... qu'il faut recommander de travailler.
Il y a de la magie et de la poésie dans notre métier, ça c'est sûr. Hein. C'est un inventaire à la Prévert. Hein. On peut être stérilisateur d'œufs de goéland. On peut se retrouver parfois...
Pardon, stérilisateur d'œufs de goéland.
Oui, c'est un métier, ouais.
Excellent. C'est une des spécifications.
Ça peut... Ouais, des endroits, il y a des gens qui font ça. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur une piste de ski artificielle pour changer des blocs clim. On a bossé au-dessus à la ferme aux alligators, au-dessus des crocodiles. On a bossé sur des voiliers en mer aussi, en formation, et puis même en chantier, un peu dans le monde entier. Maintenant, il y a des chantiers qui sont magnifiques. Il y a des gens qui bossent à Notre-Dame, et des gens qui bossent sur la Tour Eiffel. On peut se retrouver vraiment... c'est un métier de passe-muraille. Il y a une nouvelle en fait, avec un personnage qui s'appelle Dutilleul, qui avait ce pouvoir, c'est une nouvelle de Marcel Aimé, avec ce personnage qui a le pouvoir de traverser les murs. C'était un gentilhomme qui traversait les murs et qui pouvait passer d'environnement, d'univers en univers. Bah, Cordis, c'est un peu la même chose parce que chaque jour, potentiellement, on peut se retrouver dans un endroit, un milieu différent. Voilà, moi, ça m'est arrivé de travailler près de la Tour Eiffel sur des bâtiments classés patrimoine. Il y a des gens qui bossent au Louvre et des gens qui... Bah, c'est vraiment... Il y a des gens qui bossent sur le viaduc de Millau. Dès qu'il y a de la hauteur, potentiellement, on peut y voir un cordiste. Et c'est vrai que ce côté de se déplacer de lieux parfois invraisemblables, hein, parfois insolites, à des endroits où en général on ne va pas, hein, parce que l'intitulé c'est travaux d'accès difficiles ou travaux inaccessibles. Donc en gros, le cordiste va où les gens ne vont pas d'habitude, en défiant la gravité avec justement les techniques de cordes et de matériel aujourd'hui, parce qu'on a quand même du matériel, matériel de compétition, clairement. Donc on a la chance effectivement de pouvoir voir le monde avec une approche un peu particulière, très singulière.
Un mot peut-être sur la réputation du Greta Doddy et sur son CATS. Vous l'avez mesuré ?
Moi, j'ai surtout mesuré en ayant repris la gérance du centre de formation, c'est que on a la chance d'avoir une certification qui a 24 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont passé le CATS il y a des années, qui étaient, on va dire, débutants et qui ont fait leur gamme et qui aujourd'hui sont des papas. Quoi. Les enfants d'hier sont les papas d'aujourd'hui et puis on les retrouve à des postes stratégiques dans plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises où les chefs d'entreprise sont des anciens CATS. Nous, on a un ami qui travaille, qui dirige toute l'équipe à la Tour Eiffel. C'est un ancien cadre, c'est une personne qui a une grosse boîte d'intérim qui s'appelle 2.0, c'est un ancien cadre. Les cadres, ils sont partout. C'est un peu comme une fratrie, comme du compagnonnage, en fait, d'une certaine manière. Et puis, on sent, parce que comme c'est comme des personnes qui étaient pendant un an au même endroit, on sent qu'il y a vraiment une part émotionnelle, en fait, là-dedans. Et qui relie tous ces gens-là. Il y a vraiment quelque chose qui passe au niveau du cœur. C'est-à-dire que... Après, ce qu'on peut dire au Greta aussi, c'est que c'est du service public. Donc, c'est de la formation professionnelle continue pour adultes. Donc, nous, on n'est pas vraiment tenu à faire de l'industrialisation du cordiste. On est plus sur du projet individuel, personnel. On n'est pas tenu à faire du chiffre impérativement.
Ça, c'est très intéressant.
Donc, cette notion de service public, pour nous, elle est importante. C'est-à-dire la considération. Nous, on est avant tout cordiste. Moi, je suis responsable de formation, mais à côté de ça, j'ai aussi mon entreprise de cordes. Je suis à 50% au Greta sur cette gérance-là, 50% sur mon activité. Donc, j'ai toujours les mains dans le cambouis. Donc, en permanence, on fait cette... cette passerelle, en fait. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le chantier enrichit la formation, parce que c'est important de ramener les pratiques, les astuces de chantier en formation, les donner aux stagiaires, et aussi de prendre ce qu'on apprend en formation au niveau de la technique, et ça permet de faciliter le chantier, ça permet d'avoir une approche, une vision globale du chantier plus fine, plus technique, et de faciliter la vie, etc. Donc ça me paraissait important aussi, ouais.
Question aux formateurs que vous êtes, quelle est la part de formation que vous apportent les stagiaires eux-mêmes, finalement ? Parce que c'est un peu ce qu'on cherche à valider, déjà, si on est pédagogue, si on est compréhensible, tout ça.
Nous, c'est ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire que quand on arrive, même quand on est en chantier, on arrive face à des individus, on n'est pas sur une vision, on est sur de l'andragogie, donc de la pédagogie pour adultes. On n'est pas là à faire un monologue de manière magistrale et avec des écoutants et une personne qui donne à savoir. Non, on est dans une approche où on va prendre les individus comme ils sont, avec leur expérience, et puis on va les mettre justement à contribution du projet pédagogique commun, et puis on travaille en équipe. Voilà.
Ouais, à travers les stagiaires, c'est vrai que c'est parfois un peu un miroir. Hein. Quand on les voit, alors pour les meilleurs moments, quand on les voit réussir avec brio une mission qu'on leur a demandée, c'est satisfaisant parce que on se dit qu'ils y arrivent, qu'on a réussi à leur transmettre quelque chose, et c'est un signe, quelque part un signe de réussite. Quand à l'inverse, on les voit en difficulté et n'ayant pas compris les consignes qu'on a transmises, c'est peut-être qu'il faut se remettre en question, que la communication, elle est pas forcément bien passé ou qu'on ne s'est pas suffisamment assuré d'avoir été bien communicatif sur ce qu'on demandait. Donc c'est une remise en question permanente pour le bien de tout le monde, en fait.
Si on se retrouve aujourd'hui ensemble, Philippe, Julien, pour le Greta de Doddy et ce CATS, cette formation de travail sur corde, c'est parce que vous vouliez justement communiquer dessus, vous relancer tout un cycle qui a déjà commencé, avec ce nouveau CATS ou pas tout à fait encore ?
Là, c'est en cours de renouvellement, donc pour l'instant, on fait des formations longues. La prochaine formation, elle commence le 2 mai. Donc le 2 mai 2022 est fini le 3 juin 2022. Il reste encore quelques 2023 pardon. Il reste encore quelques places. Et du coup, c'est aussi pour communiquer autour de cette formation. Celle d'après sera en septembre, etc. Il y en a tout au long de l'année. Et on est toujours à la recherche en fait, de personnes qui potentiellement sont intéressées pour intégrer ce métier. Et nous, on sera de bons conseils pour les accompagner, sachant qu'aujourd'hui, en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres formations qui dispensent. Des formations qui font passer certification en cordiste, il y en a plein. Mais maintenant, des formations où on passe autant de modules métiers, où on développe autant de compétences métiers, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, ça permet aussi, au bout d'un an, de devenir déjà technicien cordiste confirmé, d'être déjà expérimenté, en plus de pouvoir valoriser tout un portefeuille de compétences métiers. Nous, le taux d'employabilité des gens qui passent le CAT, c'est en tout cas la formation longue à 10, elle est de 100% clairement. Hein.
Ouais. Donc, une formation au mois de mai, il reste quelques places. La prochaine, ce sera en septembre. Comment fait-on pour rejoindre votre équipe?
Un petit coup de fil au Greta Adi, ou taper Greta Ardèche Drôme sur Internet tout simplement, où on tombera sur le site du Greta, où il y a nos coordonnées, où on pourra donner nos coordonnées aussi ici, si vous voulez.
Ouais, bah allez.
Je vais te le donner en direct live. Donc du coup, vous pouvez nous appeler au 04 75 22 14 08.
Qu'est-ce qu'il faut pour arriver chez vous?
Une aptitude à la hauteur, être certain qu'on n'est pas en difficulté dès qu'on est exposé à un risque de chute. Alors, il ne faut pas que les gens aillent se mettre au bord du vide pour voir si ça passe ou pas, parce que ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que les personnes qui auraient eu vraiment...
Le vertige.
Une forme de vertige, ou en tout cas une réaction qui est un peu paralysante, ça peut être compliqué, effectivement. À l'inverse, des personnes qui ont des facultés, qui sont à l'aise avec la hauteur, des personnes qui pratiquent, par exemple, des sports de verticalité, l'escalade ou la spéléo, bon, ils seront très à l'aise, mais ce n'est pas forcément du tout un prérequis. Le seul prérequis, c'est de ne pas avoir de problèmes médicaux qui empêchent d'enfiler un harnais et de l'utiliser, et de pas avoir vraiment de problème quelque part bloquant face à les situations de très bonne hauteur, tout simplement.
Faut pas oublier que c'est un métier sportif. Voilà, clairement, c'est vraiment.
Oui. Oui, d'ailleurs, vous êtes tanké, quoi. Vous êtes bien. Oh. Vrai.
Merci Baptiste.
Non, mais c'est vrai.
Des loges, mais oui, effectivement, hein, on a des gens qui sont des stagiaires qui sont surpris par quelquefois la condition que ça demande. Il faut voilà, si des gens veulent se préparer à rentrer en formation. Il n'y a pas besoin de faire un programme d'entraînement, mais en tout cas, essayer de prendre soin de soi, ça peut être très pertinent. Ouais.
Et puis, il y a toujours des marches d'approche. Il y a toujours... Voilà. Parler de l'entretien en montagne, j'imagine qu'il faut être un petit peu alpiniste aussi si on veut entretenir les pylônes du Mont-Blanc, par exemple, ou l'aiguille du Midi.
Clairement. Il y a d'ailleurs des tâches des cordistes qui se retrouvent à travailler sur notamment des hautes montagnes. Hein, l'aiguille du Midi, le Mont-Blanc, je ne pense pas qu'il y ait d'ouvrage là-haut, mais en tout cas, ouais. Effectivement, les cordistes peuvent être amenés à des fois même pas travailler avec leur harnais, mais juste de par leurs conditions physiques et leur aptitude avec la hauteur et l'altitude. Quoi. C'est arrivé. Oui, clairement. C'est pas indispensable. Hein. Tous les cordistes ne sont pas alpinistes, loin de là. Mais, et l'inverse non plus. Mais ça peut être un plus.
Qu'est-ce qu'on aurait oublié, selon vous?
Peut-être juste repréciser ce qu'on peut définir comme le métier de cordiste, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Ça ne l'est pas au sein de la profession, d'ailleurs, hein, pour tous les cordistes. Hein. Certains nous considèrent que ce n'est pas un métier, juste un moyen d'accès. Moi, je rejoins plutôt l'expression de Philippe, hein, qui dit que c'est un métier au carré, c'est-à-dire que c'est un métier qui permet d'accéder à un poste de travail. Une fois à ce poste de travail, on nécessite d'autres compétences pour réaliser le travail, quoi, quel qu'il soit. Que ce soit de l'accompagnement de personnes, des fois, que ce soit de l'encadrement d'autres cordistes, ou que ce soit même assez simplement, des fois, des prises de vue. Hein. Il faut savoir prendre des photos, mais il faut savoir le faire. Que ce soit, après, des métiers bien plus techniques, hein, comme on a pu l'évoquer durant cette heure. Mais avant tout, le métier de cordiste en lui-même, c'est vraiment la maîtrise des risques concernant les accès en hauteur. Donc, avec différents niveaux, comme on l'a expliqué, hein, le niveau 1, CQP cordiste, par exemple, ne peut pas être tenu de maîtriser les risques. C'est pas... Lui, il va appliquer ce qu'on lui demande de faire, et il doit savoir dire stop quand la situation n'est pas ce qu'elle devrait être, en tout cas ce qu'elle a été prévue. Il est vraiment là, le métier, à mon sens. Hein, c'est le concept que je défends, c'est qu'on est là dans une maîtrise des risques, et le métier est là. Quoi. C'est un métier, c'est pas donné à tout le monde de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Sinon, malheureusement, c'est là où on peut s'exposer à des problèmes, des risques d'accident. Quoi.
Philippe, un mot aussi.
Je rejoins Julien. En fait, on peut dire que l'ADN de la profession, c'est la sécurité. Après, on peut aussi, parce qu'on parle de sécurité tout le temps, ça peut être un mot un peu, comment on peut dire, rébarbatif ou anxiogène, ou etc. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à travailler en sécurité, mais on apprend à travailler avec plaisir en sécurité. Parce qu'effectivement, même si les conditions de travail sont parfois difficiles de par les milieux qui sont pas toujours, qui peuvent être agressifs, hein, parfois, clairement, y a toujours cette notion du travail en équipe qui rend le travail plaisant. Il y a un esprit de franche camaraderie, un esprit de collectivité, d'humanité. Il y a beaucoup d'humanité chez les cordistes, clairement. Donc ça, c'est vrai que c'est une population que nous, dont on fait partie et qu'on aime particulièrement parce qu'on sait qu'il y a des enjeux justement de sécurité qui sont plus.
Ça fait penser au sport extrême, ouais. C'est une bande de base jumper.
Ouais, sauf que nous, le risque, il doit être le plus proche de zéro. Il n'y a pas de...
Mais eux aussi, je suis sûr. Hein.
J'espère. J'espère.
Disons que quelque part, dans certains sports, hein, c'est là, quelque part, la séparation.
Puis
la
vous en parliez, c'est une
équipe. C'est que la prise
sportive
de risque est génératrice de satisfaction, ou même est indispensable pour réaliser l'exploit, ou en tout cas le but qu'on s'est fixé dans le cadre du sport. Dans le cadre du travail, ce n'est pas possible. On ne peut pas se permettre de prendre des risques non maîtrisés. Donc, si on est exposé à des risques, on doit maîtriser 100% de ces risques et être sûr que ce qu'on fait ne va pas nous porter atteinte.
Et nous, ce qu'on essaie d'enseigner, notamment en Greta, c'est que la maîtrise justement des risques et de la sécurité est génératrice de plaisir. Parce qu'à un moment donné, quand on maîtrise bien son sujet, ça devient un peu comme un jeu d'échecs où on va, le risque d'explosion... Hop, on va y mettre telle parade, le risque de hauteur, on va y mettre telle parade, et ça devient une espèce de grande mécanique intellectuelle où on pose tous ses pions, et puis ça devient un environnement. Et puis après, on va se commettre à la matière. Ce qui est intéressant en tant que cordiste, c'est quand il y a la partie décontextualisée, on va dire, la personne qui fait les modes opératoires derrière son bureau, etc., potentiellement. Et puis il y a le cordiste qui va au terrain, qui est au contact de la matière. Et ça, c'est fascinant parce qu'on est en proie directe, en prise directe avec le risque. Et si on a ce respect du risque, parce que la première chose, le cordiste qui doit faire la première chose, c'est respecter la gravité. Parce que si tu la respectes pas, elle te respectera pas. Voilà. Et comme dit c'est Kassovitz dans La Haine, le plus dur, c'est pas la chute.
C'est l'atterrissage.
C'est l'atterrissage. Merci Baptiste.
Merci à tous les deux aussi. Julien Rivollet, Philippe Krebs pour le Greta Dodi, Greta Dromardèche. À la prochaine, vous revenez quand vous voulez.
Merci, on viendra écouter de la musique avec toi la prochaine fois.
Avec plaisir, merci.
À bientôt, merci Baptiste.
Es-tu bien bâché ? Ton descendeur est à longe courte sur le blessé. Arrache toujours doublé, sécurité. Es-tu bien bâché? Semble à frotter, peut se couper. Toi, pas te vautrer. Es-tu bien bâché? Toi, assuré sur le point de relais. Moi, pas volé. C'est une chanson pour les cordistes, pour des gars perchés là-haut. De vrais accros, ouais, de vrais accros. Accros à rester libre dans le boulot. C'est pas là-haut qu'on te brisera le dos. Es-tu bien vache? Être casqué peut te sauver, ta tête de trophée. Mais es-tu bien vaché? Le CQP c'est compliqué, t'as qu'à le bosser. Es-tu bien vaché? Les facteurs chocs neutralisés, sinon se briser. Thank you. une chanson pour les cordistes. Les gars pêchés là-haut, de vrais accros, ouais, de vrais accros. Accros à rester libre dans le boulot. C'est pas là-haut qu'on te brisera le dos, mais tu bien payé. L'été grillé, l'hiver, les gelés, c'est mérité. Et tu bien payé. Après purger, faut maçonner, sans faire de blessés. Et tu bien payé. C'est ton petit cul qui est engagé, si toi volé. Une chanson pour les cordistes, pour les gars perchés là-haut, oh ouais, là-haut, là-haut. De vrais accros, accros à quoi? À rester libre dans le boulot. Ce n'est pas là-haut qu'on te brisera le dos. Et tu viens payer.